Bonsoir. Le chef de la MONUSCO a mis en garde contre une aggravation des tensions politiques alors que la crise électorale est devenue une crise constitutionnelle. C'était à l'occasion d'une réunion du Conseil de sécurité à l'ONU hier mardi consacrée à la situation en RDC. Maman Sidiku a déclaré que les acteurs de tous les côtés apparaissent de plus en plus disposés à recourir à la violence pour parvenir à leur fin, tandis que l'espace pour une activité politique constructive a encore diminué. Le patron de la MONUSCO affirme que la seule solution qui trace un chemin vers la paix pour le pays reste un dialogue inclusif. Comment analyser cette déclaration du chef de la MONUSCO? C'est le thème de dialogue entre Congolais de ce mercredi 12 octobre 2016. Pour en parler, je reçois dans cette émission pour le débat Maître Jean Bouillot, professeur à l'université de Kinshasa. Il est cadre du PPRD, parti membre de la majorité présidentielle. Maître Bouillot, bonsoir.
Bonsoir.
Jean-Bertrand Ewanga, député national de l'opposition et président du Front citoyen pour la République, FCR en sigle, parti membre du Rassemblement. Monsieur Ewanga, bonsoir.
Bonsoir.
Et le professeur Maïla Chiembe, directeur de l'Institut panafricain de géopolitique dénoncé en France. Professeur Maïla, bonsoir.
Bonjour madame.
Merci parce que vous êtes nombreux à nous envoyer vos réactions. C'est le cas de Ngalou à Lubumbashi dans la province du Haut-Katanga. La déclaration de M. Sidiku rattrape ceux qui ont voulu procéder par la politique de l'exclusion pour arriver à leur fin. Le dialogue inclusif reste le seul moyen pour sortir de la crise. Merci de nous suivre partout en RDC sur la fréquence FM. Et pour vous qui êtes à l'étranger, merci de nous rejoindre sur www.radiokapi.net. Bienvenue à tous dans cette émission.
Pour participer à l'émission, appelez le 081 051 66 78 ou contactez-nous par SMS 081 051 57 78 ou par mail dec@radiokapi.net.
La situation politique demeure extrêmement fragile en RDC. Le processus du dialogue n'est pas aussi inclusif que l'on l'aurait souhaité. À propos de Maman Sidiku hier mardi 11 octobre 2016 au Conseil de sécurité des Nations Unies. Le patron de la MONUSCO a concentré son propos sur la situation politique, sécuritaire et humanitaire de la RDC et l'appui que le Conseil de sécurité pourrait apporter aux efforts de la MONUSCO. Mireille Bukassa nous en dit plus.
D'après Maman Sidiku, la situation politique demeure extrêmement fragile en RDC, ce qui contribue aux tensions accrues et à un risque réel de voir la situation se dégrader davantage. Et malgré les efforts déployés par le facilitateur Edem Kodjo, le processus du dialogue n'est pas aussi inclusif que l'on aurait souhaité. Il a dans son discours rappelé qu'au cours de l'une des assises du dialogue national, la CENI a annoncé que la tenue des élections présidentielles, législatives et provinciales en un seul jour ne serait techniquement possible que le 18 novembre 2018. Cette annonce a suscité des vives contestations de plusieurs partis politiques de l'opposition qui estiment que la CENI aurait été instrumentalisée dans le but de maintenir le président Joseph Kabila au pouvoir. Et pour conclure, le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies en RDC a souligné que la période à venir sera certainement difficile, d'où a déclaré Maman Sidiku, je cite, « Je crois que ce conseil devrait rester activement saisi de la situation et éventuellement chercher à échanger régulièrement avec la MONUSCO dans les prochains mois. » Fin de citation.
Merci Mireille Bukassa pour ces détails. Maître Jean Bouillot, je rappelle que vous êtes professeur à l'université de Kinshasa et cadre du PPRD, parti membre de la majorité présidentielle. La situation politique demeure extrêmement fragile en RDC et ceci contribue aux tensions accrues, à une réduction continue de l'espace politique, à un risque très réel de voir la situation se dégrader davantage, a déclaré Maman Sidiku devant les membres du Conseil de sécurité de l'ONU. Qu'est-ce que vous en pensez?
Il y a deux choses à dire concernant la situation politique en RDC. Je voudrais d'abord dire que j'ai reçu avec respect les propos de M. Maman Sidiku, mais je me suis posé la question de leur niveau réel de réalité ou de vérité. À mon avis, il y a eu une exagération certaine du niveau d'instabilité auquel il fait allusion. D'abord, il est vrai que le 19 et le 20 septembre, il y a eu effectivement à Kinshasa une marche demandée et autorisée de la part de l'opposition. Cette marche qui aurait dû commencer à 10h ou un peu plus tard a été inaugurée malheureusement par des casses et des attaques contre les sièges des partis appartenant à la majorité dès le matin, très tôt matin même, je dirais. Alors, ceci a entraîné un climat où des hordes de personnes avec des cocktails Molotov préparés dans des lieux bien connus, notamment à Limité, ont pris d'assaut une série d'immeubles et même des attaques sur des particuliers, vous connaissez le cas de Mandal, et finalement, en cours de journée, l'autorité a été amenée à demander la suspension de cette marche. Et le deuxième jour, il y a eu un déferlement de violence dans le même sens. Et évidemment,
des arrestations.
Alors, la question ici est de dire, puisque le 19 et le 20 septembre, il y a eu à Kinshasa, dans la République démocratique du Congo, une marche qui s'est mal soldée parce que ceux qui devaient marcher, qui étaient autorisés, n'ont pas assumé leurs responsabilités, est-ce que ça veut dire que le pays tout entier brûle? C'est ça le hic. Si je prends les événements de Kinshasa, le 18...
Kinshasa, c'est quand même le siège des institutions.
C'est le siège de l'institution, mais c'est un pays de 2 345 000 km² qu'est la République démocratique du Congo. En un point, ça brûle. Est-ce que c'est tout le pays qui brûle? En cela, je dis, il y a eu une exagération lorsque vous comparez ce qui s'est passé à Kinshasa par rapport à l'entièreté du pays. Deuxièmement...
Donc vous pensez que ce qui s'est passé le 19 et le 20, on ne peut pas pousser M. Sidikou à dire que la situation est volatile et fragile?
Voilà. Je crois que ça ne l'autorise pas à le dire. D'autant plus que vous venez de suivre vous-même l'exemple de l'ambassade des États-Unis qui a laissé partir, qui a invité ses citoyens à quitter le pays et qui, une semaine après, s'est dit non. Écoutez, ils peuvent rentrer. Ça veut dire que les conditions qui ont été présentées comme étant finalement les plus mauvaises ne sont pas les conditions qu'il y a sur le terrain. Et je crois que, d'un autre côté aussi, lorsqu'on dit qu'il y a eu qu'il y a réduction continue de l'espace politique, c'est aussi exagéré. L'opposition a ses télévisions, a ses radios, il a sa presse, et tout cela fonctionne bien jusqu'à ce jour. Alors, je ne pourrais pas confirmer personnellement que leur espace politique a été diminué. Je ne sais pas mettre ça sur le terrain. Donc là, il y a eu quand même un excès, une exagération de la part de monsieur...
Et si on vous demandait, Maître Mbou, comment se présente la situation politique aujourd'hui en RDC?
La situation politique est normale dans le sens que les institutions fonctionnent. Il y a un débat politique sur la fin du mandat du chef de l'État. Cette fin de mandat est constitutionnelle et le président de la République n'est nullement lié à dire qu'il ne sera pas, ce ne sera pas la fin du mandat. Non, c'est une fin de mandat constitutionnel que tout le monde peut lire dans la Constitution. Donc, il n'y a pas lieu aujourd'hui à considérer que les institutions ne fonctionnent pas. Les institutions fonctionnent. Il y a une opposition, évidemment, qui dit « Nous, on n'est pas d'accord. On veut que le président en exercice puisse partir. Il ne veut pas partir. » Cela relève de la spéculation politique qui peut être suivie par des personnes parfois irresponsables. Mais en tout état de cause, dans le pays, les institutions fonctionnent, ce qui justifie d'ailleurs que les délégations étrangères peuvent venir à Kinshasa et repartir, c'est que les fonctionnaires sont payés, et c'est que la vie économique marche malgré les difficultés qui sont attenantes aussi à la condition générale. Donc on ne peut pas dire que ça ne fonctionne pas au pays. Non, la vie fonctionne.
Alors, parlant du dialogue qui se déroule en ce moment en RDC, le chef de la MONUSCO estime que ce dialogue n'est pas aussi inclusif que l'on aurait souhaité.
Effectivement, il n'y a qu'une partie de l'opposition qui est venue au dialogue. L'autre partie a refusé. Maintenant, il se pose une question d'ordre philosophique. Si vous invitez quelqu'un qui est libre de venir à votre réunion, et que lui dit « Non, moi je suis libre, je n'y viens pas », à ce moment-là, quelle est la faute de celui qui invite? Le chef de l'État a dit que le dialogue était inclusif. Il a invité les partis,
une partie a accepté, après qu'on ait résolu un certain nombre de conditions, une autre partie a dit non, moi j'ai encore des conditions, je ne viens pas. Maintenant, est-ce la faute du chef de l'État que ces gens-là ne viennent pas, pendant que les raisons qu'ils invoquent font partie justement des questions qui peuvent être résolues par les institutions, et à la justice qui est sur ces questions-là.
Merci.
Et donc, je dirais que aujourd'hui, on ne peut pas non plus soutenir que le dialogue aussi qui a lieu, s'il n'est pas inclusif, parce que réellement une partie de l'opposition n'est pas venue,
merci,
que cela est de la faute de la majorité.
Merci Maître Mbouyou, Jean-Bertrand Ewanga, vous êtes président du parti politique France Citoyen pour la République, parti membre du Rassemblement. Quel est votre point de vue par rapport aux propos de M. Sidikou, qui estime que la situation politique demeure extrêmement fragile en RDC?
Madame, je donne pleinement raison au représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies, qui vit au quotidien la réalité de notre pays. Je suis même très surpris par quelques affirmations du professeur Mbouyou, que je respecte beaucoup, qui dit que tout va bien et qu'il y a une partie qui est restée. Non, la situation, je vous dis, telle que décrite dans les textes. Je félicite le représentant spécial qui a restitué la réalité de la situation dans notre pays. Mais je note, en passant, que la violence se prépare du côté de la majorité.
Pas du côté de l'opposition.
Non,
vous accuse pillé le...
Madame, je vais répondre avec beaucoup de facilité à cette question. Nous avons informé l'autorité, conformément à la loi, qu'il y a une marche. Et les gens sont venus librement à la marche pour suivre l'itinéraire qui a été convenu. Nous étions tous là. Mais subitement, nous sommes surpris parce qu'il y a eu déferlement de foule qui venait de partout. Peut-être qu'ils se sont sentis traumatisés. Ils ont barré la route de l'aéroport à partir d'Ndjili. Ça a énervé les gens. C'est eux qui nous ont provoqués. C'est eux qui ont commencé à...
Est-ce que c'était une raison pour casser?
Mais madame, qui a cassé? Peut-être que nous étions infiltrés. Qui a cassé? Parce qu'un jour après, ils sont revenus la nuit cassés. Ils ont incendié le siège de l'île de Fès. Ils ont incendié le siège du Fonis et autres. Écoutez, nous sommes dans un domaine purement politique. Il y a des coups bas qui se montent. Nous avons toujours organisé des marches. Le président Tshisekedi est venu d'Europe. Il y a eu un déferlement de foule. Est-ce qu'on a cassé? Il a organisé un meeting éléphant géant sur Triomphal. Est-ce que nous avons cassé? Nous avons été provoqués. Et cette provocation, on a largué des bombes lacrymogènes, on a tiré sur la population qui était menue, et puis après on veut justifier en disant c'est l'opposition qui a causé du tort aux gens. Non, madame, je crois qu'il y a cette obligation. Tout le problème vient du non-respect de la Constitution. Les essayants se sont connus. Et si le président du Rassemblement, le président Tshisekedi, a parlé même d'un préavis, c'est justement pour limiter les dégâts. C'est pourquoi nous avons pris toutes ces dispositions. Mais qui amène les chars à Kinshasa? Qui amène les armes à Kinshasa? Alors qu'il y a une guerre à Beni, on n'envoie pas les gens pour chasser les Adef Nalu. C'est ici où la ville est hautement militarisée. Nous sommes en insécurité ici.
Alors,
on ne peut pas nous apprendre que les institutions fonctionnent, ainsi de suite.
Mais ce coup parle d'une réduction continue de l'espace politique.
Mais avec raison. Au moment où nous cherchons
vous
la décrispation...
Vous vous exprimez librement, non?
Non, madame.
L'opposition.
Madame. Mais Bruno Tshibala, où est-ce qu'il se trouve? Mon idée, là, où est-ce qu'il se trouve? Et beaucoup d'autres. Donc, il y a cette crispation de la situation politique. Ils ont un objectif, violer la Constitution, s'éterniser au pouvoir. C'est pourquoi ils veulent mater le peuple congolais. Mais je ne crois pas que nous allons accepter cela. Nous disons une chose. S'il vous plaît, nous sommes au 21e siècle finissant. Non, pardon, débutant. Monsieur le président Kabila, nous n'avons pas de problème personnel avec lui. Il a quand même fait du bon travail à un certain niveau dans ce pays. Mais il est fait mandat. Mais il y a un groupe de gens qui cherchent à lui demander, ou peut-être avec son accord, pour un glissement et s'éterniser au pouvoir. Le peuple n'acceptera pas. Et c'est pourquoi, vous avez remarqué que du côté de l'opposition, nous avons dit, il faut suivre la procédure. Le président Tshisekedi a parlé d'un préavis. Et puis après, maintenant, nous parlons de carton. c'est justement pour prévenir nos partenaires. Que assiste, ce n'est pas la violence.
Pourquoi?
C'est
pourquoi?
Vous qui avez les armes.
Monsieur Ewanga, le pourquoi?
C'est vous qui tirez sur nous.
Monsieur Ewanga, s'il vous plaît.
Ah non.
S'il vous plaît, j'ai la parole pour Monsieur Ewanga.
Oui, madame.
Alors, on parle du dialogue qui n'est pas inclusif, selon comme on l'aurait souhaité, comme l'a dit Monsieur Sidikou. On vous a invité au dialogue, vous de l'opposition.
Mais
vous avez
qui,
refusé.
Qui a invité qui? Le dialogue, pour nous, c'est conformé à la résolution 2277. Et alors?
Ce qui se passe en ce moment, ce n'est pas conformément à la résolution 2277.
Ça ne nous concerne pas, c'est une affaire de M. Kodjo avec des gens qui n'ont pas de mandat. Vous avez les députés du Lille de Pes qui se trouvaient au dialogue. Est-ce qu'ils ont reçu le mandat de Lille de Pes? Et même ceux du MRC. Mais c'est une histoire boutiquée. Cherchez-moi des gens pour à remplir des couches périphériques, comme ça on va de l'avant. Nous ne soutenons pas ça. C'est une affaire de la majorité avec ses alliés. Et nous disons et nous félicitons le représentant spécial le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies et aussi toute la communauté internationale qui parle d'un dialogue véritablement inclusif, pas celui de Kodjo.
Inclusif, c'est quand vous vous associez.
Mais
vous,
écoute,
qui avez refusé,
les gros poissons de l'opposition se récritent de quel côté?
Mais
c'est de ce côté-là.
Et même si on gardait le même facilitateur, vous allez accepter
d'y aller? Non, pas avec lui, parce qu'il a montré sa partialité. Établi sur toute la ligne. Madame, je vais vous dire que moi, j'ai été au bureau, au comité préparatoire. Les comportements de ce monsieur, écoutez, de ce...
De monsieur
Kodjo. De monsieur Kodjo, est trop partial. Il est revenu, il a ses objectifs. Alors, nous ne pouvons pas le soutenir. Il n'est pas l'église au milieu du village. Il a ses alliés. Et il travaille pour une cause bien définie. Nous ne pouvons pas définir ça.
Merci, monsieur.
Et surtout que lui, il veut violer la Constitution.
Merci, monsieur Wanga. Professeur Maïla Tchiembe, directeur de l'Institut panafricain des géopolitiques d'Nancy en France. Professeur, comment vous analysez les propos de monsieur Sidikou qui estime que la situation politique reste fragile en RDC?
Il faut dire que... D'abord, le propos du représentant du secrétaire général de l'ONU se situe dans le cadre de l'article 99 de la Charte des Nations Unies, c'est-à-dire que le secrétaire général a le pouvoir d'alerte, l'alerte sur le Conseil de sécurité pour attirer son attention sur toute affaire qui, à son avis, pourrait mettre en danger le maintien de la paix et de la sécurité internationale. Il est vrai... On sentait au propos de notre collègue le professeur Mbouyou que probablement il y aurait eu exagération. Mais le constat selon lequel les acteurs de tous les côtés apparaissent de plus en plus disposés à recourir à la violence pour parvenir à leur fin, tandis que l'espace pour une activité politique constructive en a diminué, et concluant, si cette tendance se poursuit, je crois qu'une violence à grande échelle est inévitable, fin de citation. C'est effrayant, madame. Parce que le responsable des Nations Unies n'est pas un garçon sorti de la rue. C'est quand même un responsable qui parle au nom des Nations Unies, partenaire de la République démocratique du Congo. Et d'autres raisons peuvent justifier probablement son propos, même si certains aspects peuvent être alarmants. Savez-vous, madame, que depuis de nombreux mois, la majorité présidentielle et le rassemblement de l'opposition font appel à l'article 64 de la Constitution pour justifier éventuellement leur combat ou leur affrontement? La majorité s'appuie sur la linéa 2 de ce même article qui dit, je cite, « Toute tentative de renversement du régime constitutionnel constitue une infraction imprescriptible contre la nation et l'État, et les punit par la loi. » Et l'opposition, qui s'appuie sur la linéa 1, bilant que tout Congolais a le devoir de faire échec à tout individu ou groupe d'individus qui prend le pouvoir par la force ou qui l'exerce en violation des dispositions de la présente Constitution. Fin de citation. Et si... comme vous êtes assez informé, chaque fois que la majorité prend la parole dans les médias, radio, télévision, ou dans des meetings, que ce soit l'opposition, tout le monde se réfère à ces deux alinéas pour le même article. Alors, si le représentant du Conseil de secrétaire général des Nations Unies est arrivé à cette conclusion, il n'y a pas de fumée sans feu. Donc, on ne peut qu'être effrayé et souhaiter peut-être, ce que disait Maître Mbouyou, qu'il faut peut-être qu'on se trompe demain. Mais le représentant a l'obligation morale d'alerter le Conseil de sécurité à travers le secrétaire général, parce qu'on ne sait jamais. D'ailleurs, Maître Mbouyou vient de parler des événements malheureux de ces morts du 19 et du 20, et il y en a eu déjà d'autres qui sont morts il y a l'autre mois de janvier, il y a plus d'un an. Donc par conséquent, même s'il y a la bonne foi dans l'esprit, même si le débat entre la Constitution et les partisans de tel ou tel article de la Constitution, il faut quand même reconnaître que la classe politique congolaise est dans une situation d'immaturité telle qu'un affrontement peut avoir lieu, il peut y avoir des morts, même si réellement tout le monde sait que le président de la République est un mandat, on aurait pu pas engager les discussions, puisqu'il est un mandat. Lui-même n'a pas dit qu'il brigue un autre mandat. Mais il y a une sorte de climat délétère de part et d'autre, et qui se sert envenimé, à mon avis, par la démission totale de l'organe qui est chargé des élections, la CENI. Madame, ce n'est pas le président de la République qui doit organiser les élections, ce n'est pas le gouvernement, ce n'est pas le Parlement, ce n'est pas l'opposition. C'est la CENI qui devrait organiser les élections. Et même s'il y avait lieu, compte tenu des problèmes matériels, etc., mais la date des élections et la priorité des élections, c'est la CENI qui devrait proposer. Or, qu'est-ce qu'on constate? La CENI ne propose rien. La CENI a démissionné d'abord en disant, oui, il faut que la classe politique se réunisse et me dise quel est le comportement à tenir. Voyant que la classe politique ne se décide pas, a renvoyé la balle dans le camp du conseiller constitutionnel, et en disant, ben voilà, il faut refaire une dizaine d'élections, et finalement pour dire, bon bah, on peut le faire en un seul jour, mais voilà, à telle date. Et quelle est la raison? Ah ben, il faut faire le recensement, enfin, constituer l'officier électoral, le revoir, etc., etc. Mais madame, la CENI a oublié que la réforme constitutionnelle qui a eu lieu en supprimant le second tour des élections présidentielles, c'est que le président de la République n'est plus élu à la majorité de 50 plus 1. C'est-à-dire que quand il y a une compétition électorale, quelqu'un qui a 20 ou 30% peut gagner les élections présidentielles et être président.
Merci, professeur. Merci.
Donc, par conséquent, il y a là des choses qui, à mon avis, demandent la vigilance de tout le monde, à commencer par le gouvernement, madame. C'est le gouvernement.
Merci, professeur. On vous redonne la parole. Tout à l'heure, professeur. Maître Mbouille, on va prendre pour vous cette réaction qui nous vient de Bounia.
Tamarala et Marlo à Bounia de l'Ituri. Je suis content que la dégradation de la situation sécuritaire en République démocratique du Congo soit pour la énième fois au centre des discussions au Conseil de sécurité des Nations Unies. Oui, la situation est très inquiétante. En effet, le dialogue inclusif prôné est une piste de solution. Mais je soutiendrai un dialogue qui aboutirait à une conclusion comme quoi le président Kabila ne ferait pas partie de l'équipe qui dirigerait la transition, parce que, en fait, c'est lui le problème. Si aujourd'hui, nous sommes arrivés à cette situation, c'est à cause de lui et il le sait très bien. Je souhaite donc que les résolutions, tant au niveau national, sous-régional et international, aboutissent à ce que demande le peuple congolais.
Le maître Jean Bouillon.
Oui, merci. En fait, merci Marlo, mais ce que tu demandes a déjà trouvé une réponse. Dans l'acte actuel qui est au dialogue intercongolais, cela est clairement dit. Et ensuite, la Constitution elle-même le dit tout aussi clairement. Donc ta demande a déjà trouvé une réponse dans la condition actuelle.
Moi, je te par rapport à la transition.
Bien, non, pas par rapport à la transition. Par rapport à l'élection. Parce que vous ne pouvez pas non plus violer les dispositions constitutionnelles. Article 69 qui vous dit qu'il assure la continuité de l'État. L'article 70 qui vous dit qu'il est remplacé par un président élu. Ça, vous ne pouvez pas passer outre. Mais vous ne pouvez pas
considérer que le président briguera un troisième mandat. La Constitution ne le lui permet pas, lui-même ne l'a pas dit, et dans l'acte actuellement en discussion avec l'opposition...
Il ne parle pas du troisième mandat, il parle de conclusion du dialogue. Pour lui, il estime que le chef de l'État ne devrait pas faire partie de l'équipe dirigeante pendant cette transition.
Non, le président de la République est lié par la Constitution. Il ne faut pas aller lui chercher des dispositions en dehors de la Constitution. La Constitution ne lui permet pas un troisième mandat, et il n'en discute pas. Mais qu'il soit là jusqu'à l'arrivée d'un président élu, ça c'est la Constitution qui le dit. Qu'il assure la continuité de l'État lorsque l'élection ne fonctionnerait pas, ça c'est la Constitution qui le dit. Donc il ne faut pas quitter, enlever le débat du dedans de la Constitution pour l'amener dans une rue ou dans un rassemblement. Non, non, ça c'est ce qui n'est pas permis par la loi.
Alors, et le chef de la MONUSCO a mis en garde contre une aggravation des tensions politiques, alors que la crise qui était électorale est devenue une crise constitutionnelle. Vous êtes d'accord avec lui?
J'ai une difficulté de compréhension des mots à ce niveau.
Alors, pour lui, il estime que la crise, au départ, elle était électorale, mais maintenant, elle est devenue constitutionnelle.
Très bien. Il n'a pas expliqué pourquoi elle est devenue constitutionnelle.
Je pèse.
Le chef de l'État a son mandat.
On va vous donner la parole, monsieur.
Il a son mandat jusqu'au 19 décembre, date à laquelle peut commencer une période parce que les élections n'auront pas eu lieu. À ce jour, qu'est-ce qui est constitutionnel ou inconstitutionnel ?
Le dialogue est organisé pour résoudre cette crise électorale, mais actuellement, on constate que, au lieu de résoudre la crise électorale, il y a maintenant un problème de respect de la Constitution qui se pose.
Non, résoudre le problème électoral est de la compétence de la CENI. Le professeur Moïra vient justement de dire. Il trouve une faute dans la CENI parce qu'elle n'a pas fait ce qu'elle devait faire.
La date que propose la CENI viole la Constitution.
La CENI a donné une série de successions de périodes et de délais contraignants qu'il y a dans la loi. Donc la CENI, il fallait suivre Nanga. La loi a donné différents délais pour chaque opération. Et ces délais-là ne lui permettent pas d'arriver à dire « je le ferai demain après-demain ». Il doit respecter ces délais-là. Et suivant ces délais-là, eh bien, ils ont projeté des dates. Donc, il ne faut pas lui faire un procès comme si il devait faire une élection en dehors de la loi. Il ne peut que la faire suivant les délais qui sont garantis par la loi électorale.
2018, ce n'est pas très loin quand même, Maître Mbouyou.
Mais j'étais content que la conférence a donné à l'opposition, tant celle qui est au dialogue, celle qui n'est pas au dialogue, a donné la possibilité de proposer un calendrier différent. Et comment on pouvait écourter et abréger. Malheureusement, aucune partie n'a été constructive en disant « voici un délai que je trouve réaliste, que je trouve faisable, que je trouve possible ». Et le délai minimal de 504 jours qui s'ajoute est un délai réellement minimum. Minimum. Bon, maintenant, je pose la question à ceux qui disent « nous pouvons le faire autrement ». Mais proposez-le, que nous puissions tous vous lire, tous comprendre, tous critiquer. Mais il ne faut pas dire, non, moi, ce sera dans 3 mois. Tu vas le faire comment? Il y a des lois.
Pourquoi est-ce que vous allez prendre ça en compte?
Pardon?
Est-ce que vous prendrez ça en compte si ces franges qui estiment qu'on peut organiser les élections en 2017 fait sa proposition, vous allez prendre ça en compte?
Non, ce n'est pas nous. C'est la CENI qui va dire c'est possible de le faire ou pas. Nous sommes aussi en attente d'une élection la plus rapprochée possible. Moi-même, je suis candidat à la base. J'attends que cette élection vienne. Je me suis même fait enrôler et je n'ai pas d'issue. Je vais repayer, je ne vais pas repayer. Donc, c'est vous dire que nous, en tant que candidats potentiels, nous avons tout intérêt que ces élections viennent au plus tôt. Mais au plus tôt pour que ce soit faisable, pas au plus tôt pour que ce soit dans un désordre, un tohu-bohu, où on dira par après que non, on n'a pas garanti la liberté de vote. Là, ça ne va pas.
Merci, Maître Mbouyou. Monsieur Wanga, on va prononcer pour vous cette réaction qui nous vient de Goma.
Yeri Massagiro depuis Goma, Nord Kivu. À mon avis, l'aggravation des tensions en RDC serait d'une part orchestrée par certains pays occidentaux qui tirent les ficelles et sèment la diversion entre les acteurs politiques congolais. Au moment où certains acteurs politiques cherchent à décrypter le climat politique et essaient de rapprocher les vies des autres afin de les inciter à les joindre autour d'une table en vue d'inclusivité, on assiste à des menaces et des sanctions combinatoires de la part des pays qui se considèrent comme maîtres du monde. On dirait que la communauté internationale joue au double jeu, d'une part d'encourager le dialogue et d'autre part de soutenir des manifestations violentes. Les Congolais devraient tirer attention car cette situation n'est pas loin du schéma des chaos qui ont secoué beaucoup de pays africains comme la Libye, la Centrafrique. Un peuple ne s'en sort grandi qu'autour d'une table, disait Henri Kissinger, la violence n'est jamais une solution salutaire.
Monsieur Wanga.
Ben, je voudrais très sincèrement vous féliciter dans votre analyse. Mais je voudrais vous dire que les problèmes qui nous préoccupent, madame, sont le respect de la Constitution, le pacte républicain. Les interventions ou les interprétations tendancieuses des articles 69, 70 n'engagent que la majorité. La Constitution est claire. Pour nous, du Rassemblement, le président de la République démocratique du Congo actuel s'arrête net le 19. Parce que s'il survit au 20, il sera porteur de germes, de conflits, de troubles et du désordre. Pourquoi ? Pourquoi nous le disons, madame ?
Ouais.
Simplement parce qu'il a fini son mandat, il doit plier bagage et partir. Il n'a pas que... il a aussi rendu de service à ce pays.
Qu'est-ce qui va se passer après le 19?
Mais qu'est-ce qui va se passer après le 19? Les Congolais, la classe politique, se mettra autour d'une table. Nous trouverons une solution. Vous avez suivi ce qui était passé au Burkina Faso.
La solution qu'on a trouvée maintenant, ou bien il faut attendre le 19
mais
décembre
pourquoi,
pour vous mettre autour d'une table?
Mais justement, madame, c'est là où nous disons, et je vais dire à monsieur l'intervenant de tout à l'heure, qu'il n'y a pas de tireurs qui sont des tireurs de ficelle. Les problèmes sur le respect de la Constitution. Je vous dis, madame, si le président Kabila annonce à la nation, et c'est son droit, que je ne serai pas candidat, et malheureusement pour lui, il n'a pas préparé un dauphin, et c'est tout cela qui nous met dans cette bouillabaisse où nous voulons trouver une solution. Mais la classe politique pourra trouver une solution de donner un responsable. Vous connaissez ce qui s'est passé.
Vous avez fait déjà une proposition en parlant du régime spécial.
Mais le régime
aussi,
spécial...
Qui viole aussi la Constitution.
Non, écoute madame, il y a eu un cas de, une jurisprudence en Afrique. Lorsqu'il y a eu ce qui est arrivé au Burkina Faso. Mais qu'est-ce qui est arrivé? Le peuple a pris a appliqué son droit à récupérer la situation. Mais il y a eu l'intervention de la communauté internationale. On a trouvé un modus vivendi. Ça veut dire quoi? La constitution a été gardée dans les tiroirs. Il y a eu un acte de transition. On a cherché un digne fils burkinabé qui a dirigé la transition. Ils sont revenus à la constitution. Cela est possible aussi.
On va écarter la constitution. Mais c'est ça que vous reprochez à la majorité.
Madame, écarter la constitution parce que c'est la majorité qui a préparé le désordre. Qui nous amène dans cette condition ici? Si on parle de la CENI, mais qui a refusé de donner l'argent à la CENI? C'est la majorité. Les pauvres gens de la CENI, s'ils avaient eu l'argent. Et madame, cette histoire de la CENI. Vous savez, il y a quelque temps, la CENI a réceptionné les candidatures des députés provinciaux. Parce que le fameux... qu'est-ce que je dirais le fameux...
Vous voulez parler de quoi? Du fichier?
Le fameux fichier, madame. Merci beaucoup. Les fameux fichiers, on pouvait le reconditionner et aller vite aux élections. On a réceptionné l'argent des gens, de différents candidats. Mais pourquoi les choses ont changé à la dernière minute? C'est parce qu'il y avait une volonté de nuire, de déstabiliser le pays, de changer la constitution et d'éterniser le chef de la majorité au pouvoir. Et c'est pourquoi nous disons que ça ne passera pas. Ça passera pas, même si Kinshasa est totalement militarisé, pour nous écraser, le peuple se servira de ses droits constitutionnels pacifiques. Nous, on n'a pas des armes, nous, on n'a que les mains, nous, on n'a que la parole pour réclamer le
vous
respect de la Constitution.
Vous allez utiliser vos mains pour semer des troubles.
Non, il n'y a pas de troubles, madame. J'ai donné de grands exemples ici. Notez bien l'arrivée d'Étienne Tshisekedi. Le peuple a marché de l'aéroport d'Engil jusqu'à Limité, on n'a pillé aucun magasin. Il y a eu un grand rassemblement devant le stade de martyrs. On n'a pillé aucune boutique. Nous avons été provoqués. Nous avons été menacés et c'est pourquoi les gens ont réagi.
Alors
nous
vous êtes disons, d'accord que la crise électorale est devenue une crise constitutionnelle.
Mais oui, mais parce que la crise électorale, la CENI avait la constitution, le délai constitutionnel. L'élection présidentielle devait être convoquée le 19 septembre. Mais à partir du moment où la majorité a violé cette disposition, empêcha la CENI de convoquer les élections, rassurez-vous, c'est déjà une atteinte à la Constitution. Et ça déstabilise toutes les institutions de la République. C'est pourquoi nous disons qu'effectivement, la crise électorale, qui a été planifiée par la majorité, a entamé la Constitution lorsque les verrous constitutionnels sont entamés. Qu'est-ce qui va arriver, madame?
Allons rapidement, parce qu'on va passer la parole au professeur. Allez-y.
Qu'est-ce qui va arriver? Ça va arriver, M. Kabila cherche à sortir des verrous constitutionnels. Il a déjà dépassé le 19 septembre. S'il dépasse le 19 décembre, cette constitution est jetée dans la poubelle.
Merci,
Monsieur Wanga. Je vais vous dire, madame.
Je vais vous donner la parole. Vous allez consommer votre temps, professeur. On va prendre aussi pour vous, professeur Moïla, on va prendre aussi pour vous cette réaction qui nous vient de l'Odja.
Athanas Kalanafis, depuis Sankourou par l'Odja. Les tensions existent et existeraient toujours dans ces pays. Dire que tous les acteurs politiques actuels recourent à la violence est vrai. Mais à mon avis, il y a les auteurs palpables qui sont à la base de tout ça. Car si la Constitution était respectée et que les élections étaient organisées, on n'aurait pas ces violences. À cet effet, nous condamnons avec plus d'énergie ceux qui ont failli à leur mission. La CENI d'une part et les garants de la Constitution de l'autre part. Ainsi, je pense qu'il y a temps d'organiser un dialogue plus inclusif que celui qui se tient à la Cité de l'Union africaine. Car sans un dialogue inclusif, les violences manifestées maintenant ne sont qu'un tiers de ce qu'il y aura dans les jours à venir. Mieux vaut prévenir que guérir, dit-on.
Professeur Moïla.
Ben, disons que notre compatriote de l'Odia parle de dialogue inclusif. Et ce qui est paradoxal dans la situation de la République démocratique du Congo, c'est que c'est le rassemblement, aujourd'hui, hier UDPS, qui avait souhaité ce dialogue et qui avait demandé à ce que ce dialogue soit orienté, téléguidé par quelqu'un de l'extérieur, notamment des Nations Unies ou de l'Union africaine. Alors, à ta trace, M. Kodjo a été désigné et voilà que le rassemblement qu'il avait souhaité, alors qu'à l'époque la majorité n'en voulait pas, aujourd'hui, c'est l'opposition qui trouve que M. Kodjo se comporte d'une manière telle qu'il est proche du président de la République que de la majorité, enfin donc de l'opposition, et en conséquence de quoi il va à l'encontre des intérêts de la République. Tout ceci, au-delà des accusations, la question de l'avenir de la République démocratique du Congo et des morts qu'on a déplorées et qu'on peut cesser de déplorer demain, c'est d'abord une affaire des Congolais. Si dialogue il y a, il faut véritablement que le dialogue soit inclusif. Alors, ce qui a été reproché à M. Kodjo, c'est que lorsque l'opposition, le rassemblement, avait posé les préconditions, M. Kodjo, probablement, selon bon nombre d'observateurs, se serait trompé. Trompé de quoi? Trompé d'option. Parce qu'il ne s'agit pas d'une médiation. Il s'agit de bons offices. Dans les bons offices, le tiers force de mettre les deux parties ensemble en leur permettant de trouver elles-mêmes la solution. Le tiers ne propose pas de solution. Alors que dans la médiation, le tiers vient avec une solution qui est acceptée par les parties et qui est faite avec la participation de les aider à mettre en pratique la proposition qu'il avait faite et que les parties ont acceptée. Or, n'ayant pas tenu à obtenir que les préalables de l'opposition qui avait souhaité sa présence soit, peut-être pas toutes, mais une bonne partie soit réalisée, bah, l'opposition était obligée de le reculer. Et d'ailleurs, dans le propos du représentant du secrétaire général des Nations Unies, par politesse, il dit carrément que cette affaire de dialogue a échoué. Et bien sûr, avec les termes modérés, en disant que les résultats ne sont pas encore à la mesure de ce qu'on voulait attendre.
Parce que les avancées donc, dans le dialogue national ont été limitées.
Limitées, c'est-à-dire que le dialogue doit être inclusif, aurait dû être inclusif. C'était le souhait de tout le monde. Pourquoi? Mais parce que l'UDPS a réussi un exploit inattendu, c'est d'obtenir que les autres partis qui ne voulaient pas aller au dialogue ont accepté d'y aller. Mais à condition que leur préalable, certaines conditions soient remplies. C'est un exploit. Parce qu'il faut dire, il y a quelques années, et quelques mois,
lui était tout seul et demandait le dialogue. Et les autres partis ne voulaient même pas en entendre parler.
Alors, professeur, que faire face à la situation quand même assez tendue dans le pays, professeur? Est-ce qu'il faut refaire un autre dialogue?
Je ne sais pas si il est nécessaire de faire un autre dialogue, mais on peut au moins achever celui qui a commencé. Sauf avec M. Boudio, vous avez appris, madame, que il y aura une réunion de Sirigiel à Luanda.
Uh-huh.
Alors, si on estime que M. Koudjo, pour une raison ou une autre, il ne faut pas le blâmer, peut-être que l'approche qu'il a adoptée n'a pas conduit à l'inclusivité, bah, pour éviter justement que ce malheur ne s'abatte sur le Congo, probablement Luanda serait une instance nouvelle pour rassembler les Congolais et obtenir cette inclusivité.
C'est-à-dire que ce dialogue se tiendrait à Luanda avec le rassemblement et ceux qui sont actuellement à la cité de l'Union africaine.
Parce que c'est l'intérêt de la République démocratique du Congo. Le président de la République et son mandat, c'est connu. À ce jour, il n'a pas demandé un autre mandat. D'abord, il n'y a personne qui puisse la lui donner, ni lui-même, ni la Cour constitutionnelle, ni personne. Donc, par conséquent, le compromis qu'on doit trouver entre l'article 70 qui demande que le président reste pour tenir la maison jusqu'à l'installation du président élu et l'article 73 qui oblige que le scrutin présidentiel soit convoqué en délai de 90 jours, il faut trouver ce compromis entre ces deux articles. Parce que, comme je le répète, ces deux articles se tiennent. Parce que si on ne le fait pas, ah, on peut voir 4, 5 ans, 6 ans s'écouler sans qu'il y ait eu des élections présidentielles. En ce moment-là, le nouveau ou le mandat dont prétend que le président cherche à avoir par la main détournée, tout le monde peut se rendre compte que c'est ça la réalité, alors que pour l'instant, on est que dans l'hypothèse.
Merci, professeur Moïl. On va considérer cela aussi comme votre conclusion. Maître Jean Bouillou, le dialogue a montré ses limites. Le dialogue qui s'était actuellement a montré ses limites. La seule solution est pour les partis de participer à un nouveau, à participer de nouveau à un processus inclusif, selon M. Sidikou.
Je retiens d'abord, le fait qu'il y a une volonté d'insister sur le fait que c'est les Congolais eux-mêmes qui doivent trouver une solution. Et cette solution dans la paix, et cette solution doit venir dans le dialogue, et M. Sidikou l'a si bien dit, et j'aimerais justement comprendre la conclusion qu'il a donnée à son exposé quand il dit « M. Sidikou a demandé au Conseil de sécurité d'user de son influence pour encourager les acteurs congolais qui boycottent le processus de dialogue à y participer de nouveau et le gouvernement à garantir le droit à une activité politique pacifique. » Selon M. Sidikou, le Conseil doit également rappeler qu'il n'y aura pas d'impunité pour les acteurs de la violence, ni d'un camp ni de l'autre, et encourager les organisations régionales à s'impliquer plus directement pour aider à surmonter les divisions politiques. Je suis tout à fait d'accord avec sa conclusion.
Il faudra un dialogue inclusif, un nouveau dialogue.
Un dialogue inclusif nouveau, je ne sais pas, mais je suis tout à fait d'avis que tous les Congolais doivent parvenir à s'entendre et éviter la violence comme mode de règlement. Pour moi, ce qui j'évite de la violence, c'est que ce n'est pas les responsables de la violence qui sont souvent touchés, les victimes sont souvent des gens qui ne sont pas du tout concernés.
Maître Mbouille, on n'a plus beaucoup de temps. Jean-Bertrand Yuanga, votre conclusion, vous êtes prêt à aller, si on organise un nouveau dialogue, vous êtes prêt à y aller.
Véritablement inclusif, et aussi, il faut qu'il y ait une décrispation totale. Décrispation totale, c'est-à-dire le préalable qui ont été posés par l'opposition. Ah oui. Quand vous continuez, Maître Mouyou, arrêtez des innocents encore, vous voulez dire quoi? Mais nous pensons que Luanda, madame, le Conseil de sécurité est chargé de l'ordre public international, qui est menacé. Vous savez, quand il y a le désordre ici, le Congo voisin est menacé aussi. L'Angola, le Centrafrique et autres. Donc il y a intérêt de privilégier ces dialogues véritablement inclusif, merci. Mais sans Kodjo.
Merci,
sans
monsieur Kodjo. Merci, monsieur Oyanga. C'est la fin de cette émission. Merci à toute l'équipe de Dialogue entre Congolais. Bonne suite de programme pour la fête de la paix.